Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Erwan Lemenet, le cofondateur d'Ecotree, l'organisation spécialisée dans la valorisation de la forêt et de la biodiversité, qui entretient plus de 1000 hectares de forêt en France, c'est ça, hein ?
Exactement.
Et donc, je viens d'apprendre que tu as cofondé Ecotree avec ton frère.
Absolument, on est 4 cofondateurs.
4 cofondateurs, donc 2 frères et 2 autres...
Et voilà, et 2 autres personnes, dont un gestionnaire forestier, évidemment.
Depuis quand vous avez fondé Ecotree ?
Alors Ecotree, on a commencé à y réfléchir en 2014 et c'est vraiment sorti en 2016. Donc tu vois, ça va faire plus de 7 ans maintenant.
Ah oui, c'est vrai que ça remonte. Et est-ce qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde, je dis tout le monde, mais à chaque fois, je réfléchis dans mon écosystème, mais même les gens savent que la forêt, c'est ce qui permet de décarboner, que les arbres permettent de décarboner, etc. Source de biodiversité, etc. Mais vous, à l'époque, comment est-ce que c'est venu de se dire, bah, tiens, on va faire une société qui va vendre des arbres, des hectares, etc.
Ben, je suis toujours content de raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment authentique et puis c'est là d'où vient aussi l'idée. Donc moi, pour me présenter, j'étais banquier avant pendant 12 ans.
Et ah oui, pas la même chose du tout.
Pas du tout la même chose. et je m'occupais de faire des fusions-acquisitions pour un groupe bancaire. Donc, tu sais, fusion-acquisition, tu prends des prises de participation ou tu vends des sociétés, ou pour le compte de tes clients, ce qu'on appelle du M&A en langage, ouais. en anglicisme. Et évidemment, j'imagine, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la banque est extrêmement regardée sur la partie RSE, notamment sur la partie environnementale. Il n'y a pas pire pour une banque que de faire une très belle opération financière, mais de se rendre compte qu'il y a un bad buzz parce que la société dont elle a pris une participation, une société qui ne respecte pas certains critères, qui ne respecte pas ses salariés, ou alors qui a une empreinte environnementale très défavorable, et en plus de ça, qui ne cherche même pas à la réduire ou à faire une contribution. Et donc, on avait rajouté dans nos grilles d'analyse, ça s'appelle une due diligence environnementale. C'était assez simple. Globalement, on vérifiait que l'entreprise avait fait un bilan carbone, il avait pris des engagements pour éviter, réduire et faire une contribution environnementale. Voilà. Comme ça, on était sûr, on avait un green light en disant, voilà, au moins, on est à peu près sûr de ne pas avoir de bad buzz sur cet aspect-là. Et en fait, pendant pratiquement 8 ans, j'ai rencontré une centaine de dirigeants d'entreprise et j'ai vu un paradoxe qui m'a vraiment sauté aux yeux. Et je suis content d'en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui sont un peu dans le même cas. Les chefs d'entreprise, souvent, c'est des gens brillants, intelligents, entrepreneurs qui ont monté leur boîte et qui sont très sensibles au sujet environnemental. C'est des gens qui ont une certaine...
Tous les chefs d'entreprise, moi je ne suis pas sûr, il y a beaucoup de narcissisme et d'ego trip aussi dans les chefs d'entreprise.
Oui, mais c'est, je vais dire que c'est des gens qui ont une certaine culture, oui. Qui se renseignent. Et moi, j'ai pu voir beaucoup de dirigeants qui, à titre personnel, étaient extrêmement convaincus par le sujet environnemental.
Dans l'emploi, on en a eu.
Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui me disent, moi j'ai besoin de me ressourcer à la montagne, à la mer, en forêt.
Et puis ils ont les moyens.
Et puis, ils ont les moyens. Non,
mais il faut se le dire, on va être honnête. Eux peuvent se dire, je vais me ressourcer à la montagne, à la mer, plusieurs fois par an.
Absolument, absolument. Mais on sent ce besoin de se reconnecter à la nature. Souvent, dans des fonctions, on est très exposé, on bosse beaucoup. Et ils ont aussi cette anxiété de se dire, j'ai pas envie de laisser un monde dégradé à mes enfants, à plus 2, plus 3 degrés, etc. Et donc, à titre personnel, ils étaient vraiment très convaincus. Et paradoxalement, en tant que chef d'entreprise, quand je leur posais la question, et dans votre boîte, alors qu'est-ce que vous avez mis en place sur ce sujet-là ? Eh bien, ils se disaient, en fait, Erwan, ce qui justifie mon salaire aujourd'hui, mon poste de PDG, de président, de directeur général, c'est pas ma culture environnementale, en fait. C'est la croissance de mon chiffre d'affaires, l'amélioration de mes marges, l'expansion géographique, voilà. Et aujourd'hui, moi, je considère que l'engagement de ma société dans une démarche de lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité, bah, c'est une contrainte. Et c'est une contrainte précisément parce que je ne sais pas comment faire.
Ah, c'est juste, mais c'est pas aussi une contrainte financière et de ressources à court terme, c'est ça aussi, non? Parfois. Bah,
c'est une contrainte financière. Dans le cas de cette due deal environnementale, le dirigeant me disait Ouh là là, je veux pas faire péter mon deal juste pour cette raison-là, donc je fais un audit carbone flash, et puis ensuite je vais sur Internet, je tape crédit carbone, et puis je trouve les moins chers possibles, et j'en achète pour 20%, 30%, comme ça je crie partout que ma boîte est exacte. Et donc quand je leur posais la question, je leur disais mais les gars, vous êtes convaincus à titre perso, et vous avez conscience que pour votre entreprise, là, c'est du bullshit quand même.
Même pour eux, mais la dissonance, t'imagines le matin?
Ouais.
La dissonance pour eux, enfin, c'est horrible.
Mais alors j'ai discuté avec eux, et ils me disent mais en fait, je ne sais pas comment faire.
Ouais.
Je suis assureur, je fais de l'informatique, je fais une société de transport. Comment faire? Et en fait, c'est ce point-là que j'ai voulu essayer, c'est ce point dur que j'ai voulu contrer en créant Ecotree, en co-créant Ecotree.
Enfin, comment faire de façon aussi, entre guillemets, facile? Parce qu'il y a des solutions, mais qui demandent beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, etc. Là, finalement, Ecotree, c'est une solution qui est plus facile, entre guillemets, comme quand ils achètent, tu me disais, des crédits carbone. Finalement, c'est une solution assez simple pour eux de se dire, OK, ça au moins, c'est cool, mais sinon, il y a d'autres solutions, tu sais, pour réduire son empreinte carbone. Mais alors là, pour le coup, c'est créer une vraie stratégie plus long terme, quoi.
Absolument. Alors peut-être juste pour un point, en fait, dans la fameuse méthode ACT, il y a trois verbes, qui est éviter, réduire et compenser. Alors, nous, on n'aime pas le terme de compenser, donc je vais dire contribuer, je vais venir. Mais en fait, éviter, réduire, en vrai, les patrons, ça fait très longtemps qu'ils y pensent. Pour une raison simple. Il y a la raison environnementale, mais c'est aussi une raison simple. C'est que quand tes camions, ils consomment moins...
Économique, bien sûr.
Bien sûr. Donc,
c'est bah là, en plus, avec le prix d'énergie...
Évidemment. Donc, si tu veux, c'est pas comme si les dirigeants arrivaient « Ah, super, je vais éviter, réduire. » Ils y pensent tous les ans quand ils font le budget en disant « Comment on fait pour faire baisser le budget chauffage, j'en sais rien, fuel, gasoil, etc. » Donc, c'est pas nouveau parce que c'est un lien direct économique. Et puis après, il y a ce côté contribuer ou réparer la nature qui est marche, qui est plus difficile à franchir. Et qui aujourd'hui était surtout adressé par l'achat de crédit carbone qui était basé à l'autre bout du monde où il n'y a aucun suivi, on sait à peine ce qu'on paye. Il faut voir ce que c'est un crédit carbone. Hein. Moi, j'en ai vu des centaines. C'est un PDF de 2 pages marqué 330 tonnes Ghana. Voilà. Tu payes ça, tu mets ça dans ton rapport social en environnement.
C'est lunaire. Voilà. Tu sais que j'en avais entendu parler, mais je ne savais même pas que ça existait à ce point-là, tu vois.
Ouais,
et pour te dire à quel point je suis vraiment bisounours de l'impact.
Et en fait, pour moi, ces trois verbes, ils sont liés et très importants et il faut les faire en même temps. Pourquoi? Parce que finalement, éviter réduire, en fait, à l'échelle de la nature, de toute façon, ça va se faire en 5, 10, 15, allez, 20 ans max. Tu vois. Mais à l'échelle de la nature, 20 ans, ce n'est pas énorme. Mais si on attend d'éviter réduire au max, avant de se dire « enfin, je vais réparer le capital naturel », on remet à 20 ans la réparation des écosystèmes. Et ça, pour le coup, un écosystème, ça met 100 ans à se réparer. Et puis, moi qui suis dans le domaine de la finance, tu peux faire pleuvoir tous les millions que tu veux sur la nature, ça ne poussera pas plus vite. Donc, il faut dès maintenant commencer à réparer le capital naturel, parce que c'est en le régénérant dès maintenant, la nature est extrêmement... est capable de se régénérer très rapidement, et c'est justement cette régénération qui va nous permettre de continuer à vivre, et il faut commencer à acter ça maintenant.
Et alors, concrètement, comment ça marche?
Alors,
si j'achète une forêt, enfin, je ne sais pas si j'achète une forêt, c'est des arbres. Ça passe de quelques arbres à une forêt, non? À des
Exactement, c'est toute taille, hein, on sert toute type d'entreprise. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises vont financer la plantation, le boisement ou la gestion durable d'un massif. Et ce financement va donner lieu à ces fameux crédits qu'on appelle certificats carbone et aussi indicateurs biodiversité. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on a pris un angle un peu radical depuis le départ. On veut restaurer les écosystèmes de la meilleure façon qui soit dès le début. Donc, si on réfléchit uniquement carbone, aujourd'hui, le meilleur TRI, taux de rendement interne, enfin, le meilleur rendement aujourd'hui pour avoir un prix à la tonne le plus bas, c'est de faire une monoculture de résineux.
OK.
Parce qu'il y a une règle de 3 entre...
Mais tu ne peux pas les mettre partout, tes résineux?
Non, tu ne peux pas les mettre partout, mais j'allais dire que les monocultures, c'est ce qu'il y a de plus simple.
D'accord.
Et le résineux pousse à peu près 2 fois plus vite qu'un feuillu, donc techniquement, comme... Une règle de 3 entre la masse volumique de bois et le carbone absorbé. Et donc ça, on sait déjà que ce n'est pas bien, parce que les monocultures, elles entraînent...
Destruction de la biodiversité aussi, quand même.
Destruction de la biodiversité.
C'est des écosystèmes complets, donc...
Exactement, c'est une perte de biodiversité, c'est une acidification des sols. Et surtout, on sait aujourd'hui avec certitude que la biodiversité, c'est le meilleur rempart pour protéger la forêt. D'ailleurs, tu peux le voir.
C'est les vases communicants, tout ça.
Exactement. C'est en fait, nous, on veut des projets holistiques où on restaure un écosystème. Et on ne peut pas se dire, tiens, pour gagner plus d'argent en 2020, je fais une monoculture parce que je vends ma tonne 10% moins cher, alors que ce projet, il va durer 50, 80 ans, tu vois. Donc on a pris un axe fondamental qui est de dire, on part de la nature, on restaure au mieux possible pour préserver la biodiversité. Et ensuite, on verra bien ce qui sort. Et effectivement, on a un prix à la tonne un peu plus élevé aujourd'hui, mais nos clients nous suivent parce qu'ils ont compris la logique. Voilà. Mmh. Et surtout, l'offre d'écoterie, aujourd'hui, il y a deux mots qui la caractérisent. C'est qu'elle est incarnée, parce qu'en fait, tu n'es pas en train d'acheter des certificats carbone. Tu as planté 100 hêtres, 100 chênes sessiles, 200 épicéas à la Trinité d'Angonnet. Donc, c'est une démarche qui est vraiment très incarnée et c'est une démarche qui est cohérente. Parce que aujourd'hui, les entreprises qui sont basées en France, qui émettent en France, qui consomment en France, ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés d'acheter des crédits au Venezuela, au Pérou ou au fond de l'Afrique.
Ouais, et puis surtout quand ils ne savent pas de quoi ça retourne. Alors que là, au moins, ils peuvent suivre. C'est même peut-être un peu ludique parfois de se dire, voilà, moi, j'ai ma forêt là-bas. Oui. Je peux voir, en plus, je crois qu'il y a un suivi de la forêt. Non,
absolument, absolument.
Donc ça, c'est assez, oui. Je trouve que c'est ludique. Et puis, on a aussi cette problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a un taux d'urbanisation qui est énorme. Et il y a beaucoup de... Même s'il y a un très gros travail qui est fait pour essayer de remettre des végétaux en ville, remettre des arbres, des fleurs, etc. On n'est pas dans la nature même, quand même, en ville. Et les enfants qui naissent aujourd'hui en ville, qui ne sortent pas, qui n'ont pas de vacances, etc., n'ont pas d'affect comme ça pour la nature. Donc, je trouve que, je ne vais pas dire que des parents vont payer des forêts à leurs enfants, mais je trouve que cet aspect ludique de « tiens, ça, c'est mon bien, c'est précieux et c'est de la nature », je trouve que ça sensibilise pas mal aussi. Il y a de l'amour, en fait, dedans.
C'est ce que je dis à chaque fois. Toi aussi, on a tous une histoire d'amour avec un arbre.
Ah bah, moi avec tous les arbres, je crois. Non, ça va pas du tout. Je suis pas monogame sur les arbres.
Non, mais c'est l'arbre dans lequel t'as construit une cabane quand t'étais petit, l'arbre duquel t'es tombé.
Moi, j'ai fait les deux. Voilà. J'ai construit, en fait, je suis tombée au moment où j'ai construisé la cabane. Donc, je peux te dire que...
Ouais. Non, mais en plus, l'arbre a une symbolique très forte. Je veux dire, c'est le temps long. C'est les racines, c'est le terroir. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se disent... Parce que l'idée d'écoterie, c'est quoi, finalement? C'est aussi avoir ces fameux certificats carbone qui sont indispensables. Et puis, je ne veux pas parler de réglementaire, mais il y a la CSRD qui arrive en 2024. La CSRD, c'est ce qu'on appelle un reporting extra-financier, où, en gros, les entreprises vont avoir deux types de documents clés, le document bilan comptable classique et un reporting extra-financier. Et ce qui va se passer, le sens de l'histoire, c'est que les boîtes aujourd'hui qui gagnent de l'argent, mais qui ont un impact au sens global mauvais.
Oui, mais j'imagine qu'ils vont quand même regarder comment elles essayent au maximum d'abord de décarboner, de réduire avant de compenser. Même si aujourd'hui, comme tu le dis, on n'aime pas le mot compensation, mais ça reste de la compensation.
Oui.
Il faut quand même d'abord revoir sa façon de faire et ensuite faire... Enfin, pas ensuite, non, même en même temps.
Oui.
Voilà, plutôt en même temps.
Exactement.
Mais il faut faire mieux, mais ça ne veut pas dire au détriment de revoir. C'est-à-dire, je vais juste m'acheter des arbres, mais par contre, je ne change rien.
Bien sûr.
Ça, c'est faux. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut...
Bien sûr, mais tu sais, tous nos clients aujourd'hui, il n'y a aucun qui vient en disant « je veux juste faire une contribution carbone et puis je ne fais rien sur mes process », ce qu'on appelle l'insetting. Mmh. Évidemment, tout le monde cherche à réduire son impact de manière globale, mais... faut pas être devin quand tu as une boîte de transport, quand tu as une boîte dans l'informatique qui consomme des data.
Bien sûr.
En fait, à un moment donné,
tu vas être obligé. En fait, tu es obligé. C'est pour ça que beaucoup rejettent la compensation, la contribution, quand même, comme tu dis. On ne peut pas la rejeter parce que, d'une, ça aide quand même à accélérer, on va dire, à contribuer à un monde meilleur. Donc, il faut plutôt encourager. Ce qu'il faut juste, c'est que les marques évitent de renoncer à se transformer et à faire cette transition écologique. En achetant juste, comme tu dis, des certificats carbone pour compenser, tu vois.
C'est ces fameux droits à polluer, c'est comme ça qu'on les appelait.
Exactement. Ouais. Et après, se cacher derrière pour continuer ses activités. Mais ça, malheureusement, il y en a encore beaucoup.
Ouais, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de changer avec Écoterie. D'ailleurs, on le voit, certains clients qui se transforment aussi. Pourquoi? Parce que moi, je suis absolument convaincu qu'une entreprise qui met au cœur de sa stratégie des engagements forts sur le climat et la biodiversité, c'est une boîte qui va prospérer, gagner plus d'argent, fidéliser des talents qu'elle a en interne, en attirer des nouveaux. Voilà.
Exactement.
Donc en fait, c'est un investissement. Et ce que permet Écoterie, c'est pas, justement, je te l'ai dit, c'est pas un PDF en disant j'ai payé ma dette carbone. C'est je vais financer un projet de restauration du capital naturel. C'est-à-dire que moi, entreprise, je vais associer à mes contrats, chaque contrat, chaque mètre carré construit, chaque kilomètre roulé, enfin, tu fais ça ce que tu veux, chaque livret bancaire qu'on va ouvrir pour un nouveau client, on va planter un arbre, on va créer, réparer les écosystèmes. Et donc, à partir du moment où c'est incarné, tu n'es plus en train de communiquer. Tu sais ça mieux que personne, toi, qui es une papesse de la communication.
Papesse, carrément.
T'es plus en train de communiquer en disant... en fait, j'essaie de me cacher en disant...
Ah bah, de toute façon, aujourd'hui, tu sais, plus le nombre de greenwash, de greenwashing et de médias qui sont à l'affût de ça, les marques, elles n'osent plus. Enfin, j'espère, en tout cas.
Mais bien sûr, mais...
On ne peut plus, maintenant, sur des choses comme ça, communiquer.
Bien sûr, mais donc... Tu vas dire, je ne vais pas communiquer sur mon offset carbone, parce que ça, c'est encore une fois, en plus, c'est des mots anglais compliqués, les gens s'en foutent. Tu vas dire, en fait, j'ai une offre et je veux faire une contribution environnementale et je me suis aperçu qu'à Langoénan, il y a une zone humide, des ripisylves, une forêt à réparer, de la biodiversité à régénérer et c'est mon offre, à travers une offre, enfin, à mes clients, que je vais financer ça.
Et comment justement tu choisis ces endroits à restaurer ? Parce que moi, j'ai toujours en tête, je me dis, mais vu le nombre d'arbres qu'on achète et qu'on plante, à un moment, on va saturer, mais il y a toujours des endroits à restaurer.
Oui, absolument. C'est un peu la maladie dans les pays européens, c'est qu'on n'a jamais eu autant de forêts en France qu'aujourd'hui.
Hein. Oui, c'est parce que je vois tout le monde qui plante des arbres, donc à un moment, je me dis, attends, on va peut-être finir par saturer notre écosystème.
Non, il y a quand même beaucoup.
Il y a quand même encore.
Oui, il y a quand même. Pour rappel, on plante entre 1200 et 2000 plants à l'hectare. Hein, ça dépend des boisements, mais donc, non, il y a beaucoup à faire. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est les forêts malades, malheureusement.
Et... Forêts malades, c'est-à-dire ? Où il y a certains arbres qui sont malades, qu'on doit abattre, ou juste où tout l'écosystème est bancal et...
Bah, malheureusement, beaucoup de cas, tout l'écosystème est...
Ah mince.
Est... Oui, est bancal. Si on prend souvent dans le Grand Est, il y a là aussi beaucoup de monocultures de résineux, et il y a un phénomène qui est absolument très invasif, qui s'appelle le scolite, qui est un petit scarabée, hein, qui vient en dessous l'écorce, empêcher que la sève monte. Et c'est, tu sais, les arbres tout secs que tu peux voir dans la montagne. Voilà. Et la scolite va se développer et bouffe des centaines d'hectares tous les mois.
Et t'en fais quoi ? Est-ce que ce bois, tu peux le réutiliser d'ailleurs une fois que tu... Parce que tu vas devoir les... il est mort. Mais est-ce que tu peux même t'en servir ou ça c'est juste un déchet ?
Bah, au moment où tu as une forêt scolitée, ce qu'il faut, c'est effectivement le récolter au plus vite, s'il est récoltable, et puis repartir sur un nouveau boisement, mais surtout protéger la forêt. Et tu te rends compte que... Alors évidemment, les gens voient les feux de forêt, parce que les feux de forêt, c'est... Comment dire ?
Surtout, c'est un peu le mal du siècle, là, avec... Il y a de plus en plus de sécheresse l'été et énormément de feux de forêt.
Oui, mais c'est impressionnant et c'est dévastateur. Mais ce n'est pas le pire mal.
Pour les arbres.
Ouais, vraiment, c'est vraiment les maladies. Et on voit aujourd'hui, donc c'est
à quoi sont dues ces maladies ?
Au manque de biodiversité. Je vais y venir. Tu vois, le scolite qui est un insecte, son prédateur naturel, ce sont les oiseaux.
Ah oui, comme il n'y en a plus.
Mais comme les oiseaux ne nichent pas dans les résineux, en fait, tu crées un espace où il n'y a plus d'oiseaux. Et donc, en fait, le scolite, il prolifère.
Et donc, incroyable.
Et donc... En recréant des... C'est pour ça que la biodiversité est vraiment fondamentale et qui est le centre pour nous de nos projets de boisement. Quand tu fais un projet, ce qu'on appelle mixte à couvert continu, c'est-à-dire tu vas mélanger...
je te regarde, tu vas m'expliquer ce que ça veut dire, mixte à couvert continu.
Mixte à couvert continu, ça veut dire que c'est forcément un mélange de 7 ou 8 espèces d'arbres différentes qui vont avoir une croissance qui n'est pas la même. Ce qui fait que quand il y aura des récoltes, il faut récolter le bois, à aucun moment la forêt va se trouver à blanc. Tu vois, tu vas récolter des résineux, et puis après, tu vas récolter des... Et ça permet ce qu'on appelle la régénération naturelle. Parce que le meilleur arbre, l'arbre qui va le mieux pousser, ce n'est pas l'arbre qui est planté. C'est l'arbre qui pousse en dessous de son papa ou de sa maman. Quand tu récoltes un chêne, tu vois, il y a des milliers de chênes en dessous. Et donc, tu vas privilégier celui qui pousse le mieux, qui est le mieux adapté à l'écosystème, au sol.
Sélection naturelle, c'est horrible, hein, mais la vie est une sélection naturelle.
Exactement.
Pas comme nous, hein. C'est un spermatozoïde qui a été choisi, sélection naturelle.
C'est exactement la procréation, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est ce sujet-là que tu vas préférer et que tu vas éclaircir autour pour laisser venir capter la lumière. Et il n'y a pas d'autre arbre qui poussera mieux que lui. Tu peux mettre tous les plans que tu veux à côté, c'est celui-là qui va le grandir le mieux. Et donc, en préservant, avec ce type de sylviculture, on préserve la biodiversité. Et puis, on ajoute systématiquement dans nos projets des abeilles, plantation de haies, de haies mellifères, restauration de l'eau, ça c'est très important, donc création de mares forestières, restauration de ripisylves, zones humides. Pour avoir de la vie, il faut de l'eau. Hein. Et donc, tous nos projets ont cette approche holistique pour... réparer le vivant et, j'allais dire, augmenter la biodiversité. Et il n'y a pas de meilleure assurance que la biodiversité.
Ah ben, on le voit même avec les océans, hein. En fait, partout. C'est-à-dire que les forêts, les océans, c'est un peu les sujets actuels, hein, pour les entreprises qui essayent, qui vont choisir l'un ou l'autre, d'ailleurs, en général, pour, oui. Pour contribuer. Mais toi, j'imagine que bah, tu ne connaissais pas, tu n'étais pas passionné par les arbres. Là, j'ai l'impression que maintenant, c'est quand même un sujet qui t'anime, non ?
Bah oui, parce que moi, écoterie, alors c'est très ambitieux et je ne sais pas si on le fait bien, on essaie de faire le mieux possible, mais on veut être un trait d'union entre cette volonté environnementale qui est partout. Je veux dire, c'est,
bah, c'est... En fait, c'est maintenant, au-delà d'une volonté, c'est devenu une nécessité. Il n'y a raison plus le choix. Enfin, tant mieux. Moi, je suis hyper contente. C'est-à-dire que je préfère une entreprise, même un entrepreneur qui n'a pas spécialement envie, mais qui est obligé, donc de toute façon, qui doit investir pour... Pour se développer de façon plus verte et vertueuse, socialement et écologiquement. Mais bon, le mieux, c'est les convaincus. Mais j'ai l'impression que... Après, c'est ce que les gens me mentent. En même temps, ils sont dans l'empreinte, ils sont un peu obligés d'avoir l'air convaincus. Mais j'ai quand même l'impression que tout le monde se préoccupe quand même vraiment aujourd'hui des enjeux sociaux et environnementaux. Hein.
Bien sûr. Mais quand je te dis qu'on veut être le trait d'union, c'est-à-dire qu'il y a plus 82% de couverture médiatique sur le sujet environnemental, c'est la...
Ah ouais, moi je crois qu'il y a enfin pour le coup j'avais vu que c'était alors on n'a pas les mêmes chiffres, j'ai plus le pourcentage, je vais te dire des bêtises
depuis 10 ans, depuis 10 ans.
Ah oui, en plus tu veux dire un boom.
En plus.
Ah oui, mais c'était tellement peu, enfin ça reste encore très peu par rapport à l'actualité, ça reste encore très peu, je crois que c'est un truc genre même pas non, je vais juste dire des bêtises, mais c'est très 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 peu encore.
Bah c'est certainement pas suffisant, mais quand tu regardes, j'écoutais les infos le week-end dernier, alors malheureusement les Français sont globalement assez pessimiste, mais le premier sujet, avant même le pouvoir d'achat, sur le long terme, hein, parce qu'évidemment, c'est le côté environnemental. Mmh. Et effectivement, quand tu te projettes aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Enfin, nous, on travaille avec des dirigeants d'entreprise hein, qui sont nos clients. On leur dit, mais mettez-vous dans 30 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Comment tourne votre business dans 30 ans ?
Bah déjà, regarde chaque année. Parce qu'on pense ouais. Tout, ouais. L'image change à une vitesse en ce moment qui est perturbante hein, quand même.
Hein. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis... Je me rebelle contre... Enfin, je me rebelle. J'ai pas envie d'être acteur aujourd'hui de tous, ces, de tous les consultants, de tous les graphes qu'on voit, parce que ça me... Enfin, je veux dire, ça me traumatise. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me dis, moi, je vais agir. Je vais agir. Je m'en fiche. C'est loin d'être suffisant. C'est sûr et certain. Mais je veux agir et je veux proposer quelque chose qui soit concret, une démarche qui soit locale, incarnée, et cohérente. Voilà. Donc, je le fais avec mes petits moyens, mais au moins, quand je me lève le matin, je ne suis pas en train de subir les graphes, les analyses, les machins. Voilà.
On est pareil là-dessus, je crois bien.
Ouais. Et voilà, peut-être que ça donnera des idées à d'autres, mais je vois tellement d'entreprises aujourd'hui qui font rien, qui disent alors, on mesure notre mesure d'impact, ouais. On fait venir des consultants. Mais...
En fait, ils font que sur analyse. Après, il ne faut quand même pas. C'est bien, il faut mesurer ce qu'ils font, mais il faut être dans l'action. Aujourd'hui, on n'a oui. Plus le temps juste de mesurer, mais il faut oui. Agir en fait. On sait, en plus, au-delà de mesurer, on sait facilement déjà des choses sur lesquelles on peut être beaucoup plus sobre. L'énergie, les transports, il y a plein de choses. Donc avant même de commencer à mesurer, si bien ça sûr. Prend trop de temps, bah, on commence à réduire en fait, tout simplement. Ça prend pas beaucoup de temps.
Ouais.
Et c'est quoi alors tes perspectives ?
Eh ben, on a des
encore plus de forêts.
Ouais, alors on s'étend à... un peu d'autres activités comme l'agroforesterie qui est un sujet qui est très qui est un gros sujet qui a beaucoup d'avenir et puis on a aussi écoute on développe en Europe parce que maintenant on a un bureau à Copenhague depuis 3 ans qui couvre l'Europe du Nord, donc la Scandinavie, le UK, mais aussi l'Allemagne et puis les Pays-Bas, etc., enfin globalement l'Europe du Nord. Et effectivement on commence à avoir des clients là-bas, donc ça c'est aussi très satisfaisant. Et surtout Ce qui est gratifiant, c'est de voir qu'on arrive à convaincre des gens qui n'avaient pas de solution. Parce qu'en fait, il y a plein de chefs d'entreprise qui disent « Écoutez, moi, je paye, je sais pas, 500 000 euros par an de crédit carbone, ça ne me rapporte rien, j'ai un PDF de 2 pages que je mets en annexe de mon rapport social environnemental, je ne véhicule pas un message positif, je ne suis pas perçu par mes salariés, mes fournisseurs, mes clients comme quelqu'un de spécialement engagé. Mais avec vous, le fait de restaurer un écosystème, je trouve... un message positif, et puis je montre une partie de moi-même, qui est ma conviction intime, auprès de mes salariés, mes fournisseurs, etc. Voilà. Et donc très souvent, ils font des séminaires où ils emmènent leurs salariés en forêt, ils viennent voir les arbres qu'ils ont plantés 1 an, 2 ans après, ou même lors de la plantation. Enfin voilà, c'est vraiment une vraie démarche où on met au cœur, quelle que soit l'activité, au cœur de la stratégie de l'entreprise, un référentiel fort et puis un engagement fort sur le climat et la biodiversité.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci d'être venu dans l'empreinte.
Merci Alice.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.